vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Bonjour, bonjour, Ciné Plus, et je suis sûre que si vous n'êtes pas à la montagne et tout ça, moi je vais vous dire, vous allez quand même certainement aimer le film dont je vous parle, dont je vais vous parler, parce que soit vous l'avez vu, soit alors il faut absolument le découvrir. Il s'agit de Singing in the Rain, Chantons sous la pluie, un film de Stanley Donen et Jen Kelly, un film américain bien évidemment, une comédie musicale en couleur et qui date de 1952. Alors, pourquoi Singing in the Rain est un film formidable dans l'histoire du cinéma? Et bien parce que c'est un film qui parle de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qui parle notamment de cette période extrêmement difficile où tout d'un coup les acteurs qui travaillaient avec du muet, puisqu'on n'avait pas encore inventé le son, vont devoir parler. Et là, vous allez vous apercevoir, parce que ça a été la réalité, beaucoup de comédiens soit n'avaient pas des voix qui correspondaient vraiment à leur physique, ou le public ne comprenait pas. Enfin bref, toujours est-il que ce n'est pas aussi simple que ça que de parler à la radio ou même en cinéma, parce que c'est un métier, voyez-vous. Donc on écoutera. Je vais vous faire écouter quelques extraits du film et vous allez voir que c'est un enchantement, bien évidemment. Alors, oui, je disais pourquoi c'est dans l'histoire du cinéma, non seulement parce qu'on passe du muet au parlant, mais en plus de ça, c'est un film qui nous parle à la fois de ce qu'on appelle le doublage, c'est-à-dire, vous savez, quand les gens parlent, mais ils sont doublés. Alors, évidemment, on fait ça aujourd'hui pour des films américains, mais même les films français ont toujours été doublés, c'est-à-dire en studio. Je vous expliquerai comment on fait pour le doublage. Et puis aussi, c'est un film qui parle aussi du playback, c'est-à-dire que sur un peu comme on a fait les Parapluies de Cherbourg ou tous ces films chantés, c'est-à-dire qu'on enregistre le texte avant, puis les comédiens évidemment travaillent pour essayer d'être dans les mots du chanteur, et ensuite sur le plateau on envoie la musique du playback, donc la musique qui a été enregistrée par un studio, par des vrais chanteurs, et les comédiens doivent parler en synchronisme. Donc tout ça est dans le film, c'est la raison pour laquelle évidemment c'est formidable, et en même temps c'est des musiques... C'est du cinéma chanté, dansé. Alors là, évidemment, on est un peu frustré à la radio. Vous ne verrez pas danser. Et surtout, si Charisse qui apparaît et qui est absolument formidable. Alors, simplement un petit rappel pour vous dire que le cinéma est devenu sonore en 1927 avec le chanteur de jazz. Voilà. Et donc, dans le film, évidemment, il y est fait allusion. Voilà. Et le film, c'est un peu comme un conte de fées. Quand on regarde, enfin, en deux mots, parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais Chantons sous la pluie, ça se construit exactement comme un conte. Vous avez le prince, donc, qui est joué par, Jane Kelly, qui s'appelle Don Lockwood dans le film. Il a rencontré une jeune bergère, hein, on va dire, c'est ça si on se base sur le conte, qui va être jouée par Debbie Reynolds, qui est donc Cathy Selden dans le film. Et et en même temps, il y a aussi la méchante. La méchante, elle est jouée par... son nom dans le film, c'est Lina Lamont, elle est jouée par Jean Hagen. Et c'est vrai qu'elle est extrêmement jalouse, c'est vraiment la comédienne qui malheureusement existe encore, enfin une emmerdeuse terrible quoi. Et puis vous avez aussi, donc c'est la sorcière quoi d'une certaine façon. Et puis vous avez le prince charmant, hein, joué par Jane Kelly, a un espèce de, comme un vaillant écuyer, et c'est Cosmo. Et Cosmo est joué par un comédien remarquable, c'est Donald O'Connor qui est très élastique, je vais y revenir là tout de suite. Et donc voilà, vous avez donc, comme je le disais, l'héroïne du conte. Évidemment, ça va être Cathy qui va se sacrifier un petit peu comme dans La Petite Sirène d'Andersen. Elle s'offre à son prince, quoi. Un jour, un prince viendra. Ben oui, en effet, il est venu. Voilà. Et donc, c'est une caméra flamboyante hein, dans ce film. Et toutes ces comédies musicales, on les doit surtout à un personnage, à la personnalité d'Arthur Freed, F-R-E-2-E-D, Arthur Freed, qui a travaillé avec la MGM. Je m'amuse toujours à dire la Metro-Goldwyn-Mayer. Non, c'est la Metro-Goldwyn-Mayer. Mais c'était des gens qui se sont associés, Monsieur Metro, Monsieur Goldwyn et Monsieur Mayer, et qui ont su faire appel à Arthur Freed, qui était plein d'idées, et qui surtout était un excellent chef parce que c'est quelqu'un qui a su s'entourer des meilleurs. Et donc, la, j'ai envie de dire la devise, hein, d'une certaine, ou les mots d'ordre de la MGM, qui est donc une maison de production incontournable, c'était la qualité, le culte des bons sentiments et la décence, presque même quelquefois jusqu'à la fadeur, parce qu'on voyait la Fox, qui était une autre maison de production et distribution, n'hésitait pas à faire des choses presque vulgaires, enfin, où on n'hésitait pas à être un peu déshabillé, etc., etc. Tandis que la devise « art pour l'art », c'était un pari assez audacieux et Arthur Freed l'a gardé et c'est ce qui fait qu'effectivement ça a eu le succès. Et je vous rappelle simplement un des premiers succès de Arthur Freed donc en tant que producteur au sein de la MGM, eh bien c'était une féerie musicale extrêmement coûteuse en 1939, c'était Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, tout le monde connaît Le Magicien d'Oz. Et c'était avec Judy Garland et en plus un réalisateur, Minnelli, dont vous savez que la rencontre entre Judy Garland et Minnelli a fait une fille, une chanteuse formidable, enfin un petit peu, souvent un petit peu droguée plus qu'il ne le faudrait, c'est-à-dire Lisa Minnelli, mais qui chantait notamment New York, New York, enfin que vous connaissez certainement. Bref, tout ça pour dire que la comédie musicale à Hollywood est extrêmement importante grâce à Arthur Freed. Je vous en reparle parce que c'est vraiment très intéressant. Quelqu'un qui a su attirer à la MGM, on peut dire l'élite des chorégraphes, des paroliers, des acteurs, des cinéastes. C'est-à-dire que je vous parlais de Minnelli, mais il y a aussi Fred Astaire. Formidable, Jane Kelly évidemment, dont on va parler, Judy Garland, Sid Charisse, sublime, etc., etc. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire en deux mots, hein, de ce film. Alors je vous propose, nous allons écouter tout de suite le chapitre 7 de, je vous le, voilà, chapitre 7. Donc là, il se trouve que, en deux mots, c'est Fred Astaire qui commence à... Enfin, pardon, Jane Kelly, je dis une bêtise, pardonnez-moi. Et O'Connors qui commence à faire un duo. Ils sont tous les deux donc avec deux violons et ils font une chorégraphie extrêmement dynamique et là vous entendez ils font des claquettes toujours en jouant du violon, ils ont un violon qui est attaché à un élastique donc ils le laissent tomber, le récupèrent, ils font jongler leur archer sous la jambe et ils sont habillés avec deux costumes improbables avec carreaux à grande rayure et qui forment des carreaux. Ils sont habillés d'une façon identique et ils dansent avec évidemment avec un ensemble exceptionnel. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une voix off qui raconte, parce que c'est Jane Kelly, le personnage, Don Lockwood, qui raconte comment il a vécu ses débarrages, parce que maintenant il est devenu une star, il a toujours en disant que tout s'est bien passé, et en réalité, vous avez les images qui montrent exactement le contraire, que la pluie, le machin, les orages, ils se font vider, virer, enfin bon, voilà, rien n'est aussi simple que ça. Alors là, on va rentrer dans une séquence où tout d'un coup, il a commencé comme cascadeur, c'est-à-dire qu'il acceptait d'être bousculé, enfin comme sont les cascadeurs, évidemment. Voilà. Alors je vous propose d'aller voir la séquence, le chapitre 14. Donc il faut juste un petit peu de temps, je passe à la 9. Oui, là aussi c'est intéressant parce qu'il dit comment il a rencontré Lina qui va devenir, là aussi, le cinéma est basé sur le mensonge. Tout le monde croit qu'il forme un couple formidable avec Lina Lamont, en réalité pas du tout. Il la déteste parce qu'elle est odieuse, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme une sorcière. En revanche, ils font croire ça au public parce que le public, ça leur plaît quand, de les voir tous les deux jouer, quand on sait que c'est le couple, voilà, alors qu'il n'en est rien, bien évidemment. Voilà. Et donc, alors on passe sur la séquence, le chapitre 14. Là, vous avez une séquence, je m'arrête simplement sur la séquence 10. On est dans une salle de cinéma, le film est projeté, donc vous entendez la musique. Et il y a, comme c'est un film muet, donc il y a évidemment, joue ensemble, donc Jane Kelly, enfin on va dire, Don Lockwood et Lina Lamont. En revanche, évidemment, ce sont des cartons qui interviennent, comme dans le cinéma muet, par interstice. Voilà, quand elle appelle Philippe, on ne l'entend pas. En revanche, il y a un carton avec Philippe, évidemment. Voilà, donc, c'est, si vous voulez, c'était le début du muet. Et vous avez la musique qui pouvait être donnée soit dans la salle, mais par un concertiste, enfin, par un orchestre, ou alors un pianiste, tout simplement. Ce qui arrivait, tout simplement, le pianiste jouait et faisait des accords en fonction du mouvement qui était sur l'image. Par exemple, là, vous entendez une musique avec des violons, etc., parce qu'ils sont justement, les deux personnages sont en train de s'embrasser, et là, c'est The End, et le rideau se ferme, et arrivent les deux comédiens qui, sur le devant de la scène, devant le rideau, viennent saluer. Alors, je passe, comme je vous l'avais dit, séquence 13 et séquence 14, et là, il se trouve que le personnage de Gene Kelly a des fans, donc il s'arrête en voiture devant son théâtre, mais il est agressé, on peut dire, vous les entendez, et qu'il le déshabille à moitié. C'est toujours très angoissant. Et son copain, évidemment, Connor, regarde ça avec les bras croisés, ça le fait marrer. Et donc, Gene Kelly arrive à se... parce qu'il était cascadeur, donc il monte sur un bus, mais évidemment, ça ne peut pas aller très loin. Et donc, à un moment, quand arrive une voiture où il n'y a qu'un seul passager, et donc évidemment, elle a très peur parce qu'elle se retrouve assise. Alors, elle a très peur, évidemment, et elle appelle le policier. Et lui, le reconnaît et dit : mais c'est Don Lockwood ? Et donc la jeune fille, évidemment, ça ne le savait pas. Voilà, donc, je vous l'ai dit, il a sauté dans la voiture. Et donc elle est là, mais je ne vous connais pas, il me semble que je vous ai déjà vu, vous devez être un criminel. Donc cet individu a sauté, et donc le policier, je le disais à l'instant, l'a reconnu, c'est Don Lockwood. Alors il explique, je suis tombé en panne. Et le policier dit, ben vous avez de la chance. Don dit, merci de m'avoir sauvé la vie. Et à ce moment-là, la jeune fille, qui est donc évidemment Debbie Reynolds, qui tient le rôle de Kathy Seldon, lui demande, est-ce que je peux vous amener quelque part ? Et les voilà partis. Donc tous les deux sont filmés d'une façon assez théâtrale. À qui dois-je cette hospitalité ? Je m'appelle Kathy Seldon. Je ne voulais pas vous effrayer, je fuyais mes admiratrices. Elles vous ont mis dans cet état, mais c'est terrible. N'est-ce pas ? C'est vraiment terrible. Nous avons la gloire, il faut accepter les revers. Et alors il se rapproche évidemment d'elle qui est en train de conduire. On nous croit comblés d'amour, mais en fait, nous sommes seuls. Atrocement seul. Pardonnez-moi de vous avoir pris pour un hors-la-loi. J'étais sûr de vous avoir vu quelque part. Dans quel film avez-vous vu ? Je ne sais plus. J'en ai vu un. Hein ? Vous vous battiez en duel. Pour Lina Lamont. Je n'aime pas le cinéma. Quand on a vu un film, on les a tous vus.
Oh, no offense.
Ne le prenez pas mal. Le cinéma est bon pour les masses, mais ces vedettes ne m'impressionnent pas du tout. Leur art n'est que grossière pantomime. Vous savez, et elle imite les gens qui jouent dans le muet. Je fais ça ? Nous sommes arrivés. Donc elle l'arrête. Selon vous, je ne suis pas un acteur. Bien sûr que non. Être acteur, c'est parler, dire des phrases comme Shakespeare, Ibsen. Mais qu'est-ce qui vous permet de mépriser ainsi mon métier ? Je suis actrice, sur scène. Sur scène ? J'aimerais voir ça, où jouez-vous ? Je pourrais me faire traduire la pièce, s'il me laisse entrer. Je ne fais rien ici, mais je vais aller à New York. À New York. Et nous nous entendons parler de vous, bien sûr. Cathy Sheldon dans Juliette, Lady Macbeth ou Le Roi Lear. Avec une barbe, bien sûr. Au moins, la scène est une profession digne. Vous n'avez pas de quoi pavoiser. Vous n'êtes qu'une ombre sur l'écran, un mort-vivant. Puisque je suis une ombre, il essaie de l'embrasser. Toutes les femmes sont à vos pieds, mais pas moi. Point n'insisterai-je, gentledame. Je ne suis qu'un bouffon et vous régnez si haut. Adieu, Sarah Bernard. Et alors, évidemment, il joue le... Vous quittez me déchire. Et alors, il ne croit pas si bien dire parce qu'il a pris sa veste dans la portière de la voiture et évidemment, la veste se déchire. Donc, c'est quand même une séquence qui va être très intéressante puisque ça va commencer à le perturber parce qu'en effet, c'était ça à l'époque. La différence entre un comédien qui était sur scène, on l'entendait. C'était sa voix et on était au théâtre, évidemment. Tandis que quand on était au cinéma, il n'y avait plus de voix. Et c'était terminé. Donc, évidemment, ça change tout. Quoi. Donc, c'était la grande... Mais on va s'apercevoir qu'elle a menti et qu'en réalité, elle a vu plus d'un film de ce comédien et qu'elle, en réalité, on le voit sur la scène d'après, mais enfin, on ne peut pas parler de toutes les scènes. Elle arrive, elle est le paquet cadeau dans un... On amène, parce que c'est l'anniversaire de Don, et on lui amène... Ou plutôt du producteur, enfin, peu importe. Et on amène un énorme gâteau et elle sort du gâteau parce qu'elle est danseuse. D'ailleurs, des séquences où elle danse très bien. Debbie Reynolds danse très bien. Aussi, tous les comédiens d'ailleurs de l'époque, c'était des vrais comédiens. J'entends par là qu'on leur apprenait à placer la voix, à articuler, à chanter, à danser. Voilà, je ne suis pas sûr que tous nos comédiens aujourd'hui sachent en faire autant. Enfin, ça, c'était une petite parenthèse. Alors, maintenant, je voudrais vous faire passer sur une autre séquence. On va passer sur la... Voilà, donc là, c'est la séquence où elle apparaît dans le gâteau. C'est le chapitre 18. Et c'est là quand même où, dans la séquence... Attendez, je vais revenir sur la séquence 17, parce que ça, le producteur a invité tous ses amis chez lui, et il va leur faire montrer un truc, donc projection, alors on dit, oh là là, on va pas encore voir un film, si, si. Et tout d'un coup, donc sur l'écran, apparaît un homme qui se lève et on l'écoute. Ceci est un film parlant. Vous me voyez, et c'est moi qui parle. Mes mouvements de lèvres et les paroles sont synchronisés à l'unisson. Les gens n'y croient pas, quelqu'un parle derrière l'écran. Je reprends ma voix est enregistrée sur un disque. Ceci est un film parlant. Alors évidemment, c'était la grande première, et donc évidemment, c'est assez incroyable. Tout d'un coup, on entend les voix. Sauf que, évidemment, quand les gens... on va demander notamment à Lina Lamont de parler, elle a une voix absolument épouvantable, et ça fait fuir tout le monde. Donc il va falloir trouver une solution. Alors je passe sur la séquence 30, ou tout d'un coup, le chapitre 30, où quand même, on va essayer de lui apprendre la diction. Cosmo. Oui, alors là, il y a plusieurs séquences qui sont inénarrables, parce que quand on commence à mettre le son, on lui dit où est le micro, on le cache dans une plante verte. Et on lui dit, mais il faut que vous tourniez la bouche vers la plante verte, parce que c'est là qu'est le micro. Et avec cette comédienne qui est complètement abrutie, il n'y a rien à faire, bien évidemment. Alors là aussi, il y a une séquence qui est aussi amusante, qui montre le jeu des comédiens, c'est le paradoxe du comédien. Là, ils parlent, enfin, donc comme on sait que c'est muet, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire des horreurs en disant que c'est une vipère, qu'elle est une emmerdeuse, etc., etc. Mais ils le jouent avec le sourire, comme si... Et donc, quand on voit l'image et qu'on n'entend pas le son, on pense que c'est une scène d'amour, ça l'est, mais en réalité, ils ne sont pas arrêtés de se dire des grossièretés, voilà. Donc ça, c'est le côté aussi très amusant du cinéma muet et de la séquence qui se trouve dans le film Chantons sous la pluie. Alors, on continue. Lamont and Lockwood. Voilà, et je vais donc... Ça, c'est donc tout ce qui commence à être sonore. Et donc, je voudrais vous faire entendre... Séquence 30, Hollywood apprend à parler. Ça arrive sur les journaux. Les professeurs de diction font fortune. Cours de diction. Et on en voit un, notamment, où... Il y a Lina Lamont. C'est le professeur qui parle.
Ta-te,
C'est vrai qu'il y a du boulot là. Rond, des sons ronds. Votre texte à présent.
And I can't stand him.
And I can't stand him.
And I can't stand him.
Can't.
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 Donc évidemment, il n'y a rien
can't.
À faire.
Very good. Now,
et là, c'est rocks, aussi Jane Kelly, donc Lockwood, qui prend aussi des...
Around the rocks, the rugged... Yo, rocks, rocks.
Travaille
around
les airs.
The rocks, the rugged rascal ran.
Et arrive, évidemment, le copain Donald O'Connor, qui tient le rôle de Cosmo
now,
Brown. Répétez ceci. Six sieurs, six ronds, six saucisses.
Sipped his snifter. Sipped his snifter. Sinful Caesar sipped.
Peu me choque qu'un chausseur sache chasser sans chien. C'est aussi un exercice pour moi. S'il chasse sans chichi, en chaussant ses chaussures si chointantes, sans choir, ça c'est donc le professeur avec les deux collègues.
But Moses supposes erroneously.
Alors évidemment, c'est amusant parce que ce sont des exercices qu'évidemment, quand on est, quand on a une formation de comédien, on le fait. Hein. 606, 606 cigares, 606, 6.
But Moses supposes erroneously.
But Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses supposes his toes.
Voilà, et tous les deux, évidemment, se commencent à jouer ensemble et vont finir par danser.
A toes is a toes.
Moses supposes his toes are roses.
Et ils mettent, enfin, ils s'amusent un peu avec le professeur. Il lui tire sa cravate. Et cette séquence, évidemment, est prétexte à faire une séquence dansée et chantée. Très amusante, où il y a un trio. Et là encore, ils sont debout sur le bureau à faire des claquettes. Et c'est là qu'on voit la personnalité évidemment des deux danseurs, notamment Jane Kelly qui est très athlétique. Il a un côté très enfant, il est très généreux, très chaleureux, on le voit. C'est un vrai Américain, mais dans toute sa force, c'est un homme sain, quoi, qui plaît d'ailleurs beaucoup aux femmes. Et quant à Donald O'Connor, il est beaucoup plus bondissant. En revanche, puisque je parle de Jane Kelly, on peut parler qu'il est en train de danser là sur d'une façon très fougueuse avec Donald O'Connor. Un petit mot de Fred Astaire que tout le monde connaît. Il était beaucoup plus, un solitaire, un dandy. Très raffiné, très élégant. Pour ma part, j'aime beaucoup Fred Astaire. Hein. Voilà, alors on va essayer maintenant d'aller voir jusqu'à la séquence, évidemment, que tout le monde connaît. C'est la fameuse séquence avec Chantons sous la pluie. Alors pardon d'arrêter cette musique, mais j'y vais en vitesse. Donc 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... Parce qu'il se trouve que tout d'un coup, la jeune Debbie Reynolds, soit Cathy Seldon, vient lui dire qu'elle l'aime beaucoup et que voilà, etc., etc. Donc évidemment, il est très heureux et il sort donc, elle vient de lui faire un petit baiser sur la bouche et donc le voilà dans la fameuse séquence que vous attendez tous.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Ce qu'il faut dire aussi quand on regarde cette séquence en particulier de Chantons sous la pluie, où Gene Kelly danse avec son parapluie sous la pluie et chante, eh bien, il faut voir aussi la mise en espace qui est remarquable. Hein, j'en ai pas peut-être assez parlé, évidemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, on est dans un monde... c'est très tournoyant. Comme pour dire qu'il est heureux, évidemment, parce qu'il est amoureux, que tout fonctionne bien. Il tourne en rond, il y a la caméra qui tourne, son parapluie est rond, son chapeau est rond. Il est donc inondé de joie, inondé au sens strict. Et la caméra accompagne cette déambulation qui est complètement euphorique. C'est aussi ça qui nous rend très heureux, évidemment. Et donc il est là, il fait que des... Et notamment là, vous avez un moment précis où je parle. La caméra, par un effet de grue, prend tout d'un coup et tout d'un coup l'espace devient énorme. Et Gene Kelly, toujours avec son parapluie, tourne en rond. Voilà, donc ça veut dire que tout d'un coup le sol se creuse, le bonheur il est pour nous tous quoi, et donc il s'amuse avec l'eau. Et donc il y a dans le rythme quelque chose qui est aussi évidemment une chorégraphie incontestablement. Et là il est en train de s'amuser à patauger dans l'eau et arrive le policier. La musique évidemment, comme vous le voyez, se suspend. Parce que Gene Kelly vient de découvrir qu'il est regardé par un policier. Donc il ferme son parapluie parce qu'en effet, il est mouillé. Je danse, dit-il. Je danse sous la pluie. Et il s'en va. Et donc là aussi, il y a un effet de grue où on est en premier plan. Vous avez le policier qu'il regarde partir. Et d'ailleurs, en partant, Gene Kelly donne son parapluie à un passant qui en a certainement plus besoin que lui, puisqu'il est tout mouillé. Voilà. Et donc, ça c'est une idée, évidemment, ce qu'il a expliqué. Donc ça c'était le moment de joie, mais parce qu'il a trouvé l'idée formidable, où tout d'un coup ils vont faire en sorte que ce soit... Lina, qui est incapable de chanter et de parler, soit doublée. Donc c'est là que je vous disais, post-synchronisation, on la mène en studio, on fait passer le texte de... Ça se passe encore aujourd'hui comme ça, hein. C'est-à-dire on fait passer le texte en boucle de la comédienne et la comédienne qui double est dans le studio et doit, quand le texte arrive à un témoin, doit être synchrone au moment précis où le mot arrive sur le témoin. Donc exercice très intéressant. Je passe sur la séquence 45... Où, évidemment, alors là, c'est là qu'on est frustré. C'est une séquence avec Sid Charis. Il y a d'abord un espèce de travelling comme ça sur sa jambe qui n'en finit pas. Et donc, c'est quand même aussi un... Elle est magnifique. Elle est habillée d'une espèce de costume vert. Elle nargue d'une façon très érotique Gene Kelly. Et elle est avec trois mafieux qui sont prêts à bondir puisqu'elle part avec Gene Kelly pour aller danser. Et elle a en plus la coiffure de Louise Brooks. Donc vous voyez, c'est quand même un grand souvenir, en tout cas un hommage au cinéma. Et donc quand on la voit danser, il faut savoir que Cicharis, elle est à la fois une danseuse classique, mais aussi elle a beaucoup de classe, quoi. Je veux dire, c'est... Il n'y a rien à dire, quoi. Donc sur cette musique qui elle aussi est assez érotique, elle balance bien. Et donc tout d'un coup, Gene Kelly vient danser dans son ombre. Mais là encore, c'est comme quand il essaie, donc il a encore des lunettes et un chapeau. Elle va commencer à comme le déshabiller. C'est-à-dire qu'elle lui prend ses lunettes, elle les essuie nonchalamment sur sa cuisse. Et alors c'est d'autant plus intéressant que, si vous voulez, à l'époque... La MGM ne mettait pas en scène des séquences aussi chaudes, quoi. Ils étaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, assez cool. Et donc là, c'est bien la première fois qu'on voit une séquence, mais comme c'est fait avec beaucoup d'élégance, il n'y a aucune vulgarité, il y a même au contraire beaucoup d'érotisme poétique. Voilà, mais je sens que vous êtes frustrés, vous ne voyez pas Cicharis. Donc je passe à la séquence 51, au chapitre 51. Où justement, vous entendez la voix, parce qu'on est en pleine séquence de doublage. Donc vous entendez la voix de Lina. Et là maintenant, vous entendez la voix de Debbie Reynolds qui double. Notre amour durera autant que les étoiles. Il est certain que... Voilà, et donc on voit la bande rythmo qui passe sous l'écran, autant que les étoiles, et c'est à ce moment-là évidemment que ce pauvre, il n'est pas pauvre, hein, Don Lockwood déclare sa femme à Debbie Reynolds, qui évidemment tout d'un coup va arriver, vous allez l'entendre, « Vous seul comptez sur moi », dit-il. Il l'embrasse. Et là, vous avez tout d'un coup l'arrivée de Gene Hagen. Voilà, et qui lui fait une scène, bien évidemment. Ok, donc voilà. Alors, écoutez, ce qu'on pouvait dire, donc on ne va pas rester sur cette note quand même terrible de la voix horrible de cette pauvre Gene Hagen, qui doit quand même en faire un peu plus, hein, évidemment. Et donc, je voudrais simplement vous dire que c'est un film qu'il faut absolument avoir dans sa vidéothèque. Il s'agit de Chantons sous la pluie, Singing in the Rain. Et alors évidemment, je vais quand même vous raconter la fin du film, peu importe, parce qu'en plus, même quand on connaît la fin, c'est pas un problème. Tout d'un coup, comme elle est furieuse, Lina Lamont fait virer Cathy Seldon. Et donc, à un moment, elle dit non, mais je veux montrer, regardez, les gens sont très contents, parce qu'effectivement, le film, avec la voix de Debbie Reynolds, a un succès formidable. Donc les gens applaudissent, alors elle vient sur la scène, elle parle, mais quand on entend à nouveau sa voix, comme vous venez de l'entendre, tout le monde dit, mais c'est quoi cette histoire? Et à ce moment-là, ses petits copains, qui en ont ras-le-bol de cette nana qui est une sorcière et une emmerdeuse, ils la mettent derrière le rideau, et quand elle est en train de chanter, elle fait croire que c'est elle qui est chantée, parce que derrière, c'est Debbie qui chante en synchronisme, et tout d'un coup, ils ouvrent le rideau, et tout le public qui est dans la salle découvre que en réalité, c'est pas Lina qui chante, mais bien Debbie, et voilà, et donc ça se termine comme ça, c'est l'apothéose, c'est magnifique, voilà, etc. Donc si vous voulez, ce film, au-delà de cette petite histoire d'amour qui est sympathique, ça montre bien quand même, c'est très intéressant pour connaître l'arrivée du son en cinéma. Voilà, donc c'est un grand classique, mais qu'il faut voir au-delà même de cette comédie musicale. C'est un film plein d'enseignements. Donc c'était donc Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, de Stanley Donen et Gene Kelly, un film de 1952. Ben écoute, merci Manu, voilà, et puis... Eh bien, on se retrouve mercredi prochain. Non, je crois pas. Mercredi dans 15 jours. Mais c'est pas grave. À bientôt, de toute façon.